C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
L'art du conte permet d'éclairer la pensée scientifique, d'en faciliter l'approche et d'en ouvrir les perspectives. Il est à la fois jeu, poésie, imaginaire et logique. Tout ce que la science nous enseigne à développer. Salut, c'est Charles Cécile. Alors, cette citation, d'après vous, elle est de Einstein, de Hubert Reeves, d'Albert Jacquard, de Newton, d'Euclide, d'Archimède? Eh bien non, c'est comme cela que Isabelle Sauvage, notre invitée du jour, donne sa vision sur l'art du récit. C'est l'été, les oiseaux chantent, et c'est à l'heure du goûter entre un thé et une corne de gazelle que nous avons rencontré Isabelle Sauvage. Conteuse et aussi médecine, elle développe un goût pour les récits scientifiques, ausculte et pèse les mots, mêlant ainsi science et poésie. Invitée de la 3e édition du festival Héroïne de sept lieux, elle a raconté La Vaillante des Vaillants. C'est donc parti pour une heure en compagnie de la conteuse Anne Galgaud-Duchaud, qui tient le micro, et de Isabelle Sauvage, de toute la famille des dragons moldaves et de La Vaillante des Vaillants.
I still have a dream.
Les contes nous transforment, les contes nous donnent des forces intérieures, le courage de dépasser certaines limites. Trouver ce qu'un conteur ou une conteuse peut dire qui apportera quelque chose de plus. Au temps d'avant le temps, l'univers était seul, d'énergie infinie et infiniment chaud, mais sa dimension était nulle. Au temps d'avant le temps, l'univers se prit à se rêver, infiniment d'espace comme un miroir brisé. L'univers se prit à se penser des futurs jamais inventés. L'univers en conçut le désir de se déployer, de se contempler, de s'apparaître. Alors se produisit le grand éclatement qu'un jour science appela le Big Bang. Et temps est apparu, espace s'est déployé, univers. Si je m'en souviens aussi bien tant d'années après, c'est que ça a été un travail de folie.
Isabelle Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Alors tu viens de raconter là.
C'est pour ça que ça va très bien.
Ça va mieux.
Ça va mieux, mais aussi ça va très bien. Parce que raconter, c'est puiser dans sa force profonde, s'enraciner dans la terre, et là, j'avais non seulement la terre et le ciel, mais j'avais aussi un arbre derrière moi, et comme tu as pu t'en rendre compte, je m'en suis servie. Les moments de petite fatigue, etc., on s'adosse tranquillement sur l'arbre, et tout d'un coup, la raison pour laquelle on est là à raconter redevient vivante.
Tu racontes des histoires depuis longtemps ?
J'ai toujours raconté. Et mon fils, hier, me rappelait toutes les histoires que nous avons racontées en voiture. On a fait énormément de voitures. Et tout le temps, on racontait et on chantait. Mais officiellement, si j'ose dire, c'est-à-dire de façon... en tant que conteuse, je raconte depuis 1991.
C'est quoi ton répertoire? Est-ce que tu as un répertoire c'est quoi?
Il est... assez large, certainement assez atypique. Il est certes fait de la curiosité, mais il est surtout fait de la nécessité.
La nécessité.
C'est-à-dire que j'ai envie de porter un propos. Et je vais chercher les histoires qui vont éclairer ce propos, qui vont le faire vivre, qui vont l'animer, qui vont mettre en exergue d'autres sens possibles, d'autres propositions. Et donc, il va falloir aller chercher les histoires nécessaires pour cela.
C'est assez rare de partir de ça. Par exemple, c'est de quoi tu avais envie de parler ?
J'ai eu envie d'honorer mes neveux et nièces partis s'installer aux États-Unis avec leurs parents. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire un spectacle sur Eric le Rouge, qui, dans les sagas islandaises, est celui qui, le premier, alors pas lui en réalité, mais son fils, Leif, est le premier, d'après les sagas, à avoir posé le pied en Amérique du Nord. Ou bien j'ai été contactée par le conservateur d'une médiathèque qui me demande un spectacle sur Einstein. Pendant deux mois, je me torture.
Ah oui, c'est pas évident pour une conteuse.
Je lui envoie un message. Il prétendait que, étant scientifique de formation, je saurais m'en tirer. Or, la physique, j'avais horreur de cela. Et là, on se trouvait devant un sujet de physique pure. Et au bout de deux mois, je lui ai envoyé un mail en lui disant « j'y arrive pas, c'est pas possible. Je ne trouve rien, je ne sais pas comment le prendre. Or, j'ai pour principe que je ne commencerai à raconter des histoires sur un sujet qu'à partir du moment où j'ai trouvé ce qu'une conteuse peut apporter en plus. Si c'est pour faire un cours de physique, ça n'a pas d'intérêt. » Et dans la nuit, j'ai eu deux histoires qui me sont venues comme une évidence. C'était deux histoires de Nasreddin. Bon, d'accord.
C'était quoi ?
La première, c'était celle du yaourt. Nasreddin vit au bord de l'eau et une fois de plus, le garde-manger est vide. Il ne reste qu'un pot de yaourt. Il prend le pot de yaourt et comme il habite près d'un petit étang, il attrape en sortant de sa maison la rame du canot. Arrive au bord de l'eau, verse le yaourt dans l'eau, prend la rame et commence à mélanger, jusqu'à ce que son voisin arrive en lui disant qu'est-ce que tu fabriques ? Je fais du yaourt. Mais Nasreddin, ça n'est pas avec de l'eau qu'on fait du yaourt, c'est avec du lait. je sais bien que c'est avec du lait, mais imagine un instant si mon expérience réussit le yaourt que nous aurons.
C'est ça. J'ai entendu souvent Bruno raconter ça.
Oui, mais alors il la racontait au passé. Oui. Ah, si mon expérience avait réussi, imagine le yaourt que nous aurions eu.
Alors, juste, je fais une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez déjà entendu des numéros de cette émission radio sur le conte et les conteurs, forcément, vous avez entendu parler de Fahrenheit et de Bruno de la Salle. Mais si c'est la première fois, je vous conseille d'aller écouter les autres. Mais oui, Bruno de la Salle, comment on pourrait dire ? C'est un maître conteur.
Tout à fait.
Un maître conteur. Beaucoup de gens qui racontent des histoires aujourd'hui ont croisé la route de cet homme aux intuitions fulgurantes et au caractère.
Tout aussi fulgurant.
Fulgurant aussi. Et donc, oui, c'était un centre de Fahrenheit était un lieu de formation professionnelle, d'études, dégagé de la nécessité, des nécessités commerciales pour pouvoir plonger vraiment profondément dans les textes. Pardon.
Donc. Et voilà. Et je suis allée voir Jihad Darwish, que tu connais, qui est un des grands spécialistes des histoires de Jarrah ou de Jarrah. Et je lui ai dit, est-ce que je peux changer le temps des verbes ? Il m'a dit, mais tu as parfaitement le droit. Parce que si l'histoire n'est pas « ah, si, mais », imagine, si l'expérience réussit, le yaourt que nous aurons.
C'est très bien.
Or, forcément, un jour ou l'autre, elle va réussir l'expérience. Et effectivement, Einstein, un jour, comprend que le temps et l'espace n'ont pas la même signification que ce que l'on pensait auparavant. Et donc, on retrouve un travail de conteur spécifique, à savoir, on dirait que le temps et l'espace n'auraient pas la valeur qu'on leur apporte. Pour un conteur, c'est facile. On a le droit de le faire. Et donc, on change de plan de conscience, on change d'espace, on change de rationalité, mais on est toujours dans la rationalité. Imagine ce que nous pourrions avoir comme univers si le temps et l'espace n'étaient plus dans la logique qu'on leur avait accordée auparavant. Et alors la deuxième histoire est celle moins connue, Khadija, la femme de Shah, qui aperçoit son mari, elle passe par un chemin auquel qu'elle n'a pas l'habitude de prendre, et elle aperçoit au loin son mari qui a l'oreille collée contre le mur. Et dès qu'il voit sa femme, il lui fait signe de venir. Viens, viens, viens. Et de coller son oreille contre le mur, juste à côté de lui. Et d'écouter. Au bout de 2 minutes, Khadija s'arrête et lui dit, écoute, vraiment tu perds ton temps mon mari, ce mur n'a rien à dire. Ah Khadija, Khadija, que tu es impatiente. Tu n'as depuis 2 minutes et déjà tu en tires des conclusions. Moi, ça fait 10 ans que j'écoute ce mur. D'accord, jusqu'à présent je n'ai rien entendu, mais je ne désespère pas d'arriver un jour à entendre ce qu'il a à dire. Et justement, Einstein a mis 10 ans à passer de la relativité restreinte à la relativité générale. Et voilà.
Et donc dans la nuit.
Et c'était complètement. Je pense que c'est au moment où j'ai lâché une certaine forme de rationalité, qu'il fallait que je trouve quelque chose, j'ai lâché. Et c'est venu.
C'est pas pour dire, Isabelle Sauvage, invitée du festival Héroïne de 7 lieux, en compagnie de Angel Goduchot.
J'ai entendu raconter aussi dans un registre qui mélange le travail spécifique d'une conteuse et la science. J'ai entendu raconter ta genèse. Elle est très belle aussi.
C'est parce que c'est une histoire. Alors là, l'histoire est un peu différente. J'étais en Inde. Et on m'avait mis entre les mains un texte qu'il fallait que j'étudie, une Upanishad.
Qu'est-ce que tu faisais là-bas ?
J'apprenais des techniques de médecine différentes.
Parce que tu étais déjà médecin.
Oui, oui, bien sûr.
Et tu allais étudier d'autres manières de soigner.
Et on me met entre les mains, j'étais chez un couple de médecins, et on me met ce texte entre les mains auquel je ne comprends pas grand-chose. Et j'avais pour principe, comme d'ailleurs pour les histoires, c'est pareil, je fais exactement de la même façon, un texte que l'on me confie, je le recopie. Donc, je l'ai recopié. Je l'ai recopié en anglais, et je l'ai recopié en translittération sanskrite. D'accord. Je ne connais pas le sanskrit, mais je me suis dit, allez, c'est un texte exceptionnel, il n'est pas disponible dans le commerce, ben voilà, je le recopie. Et puis comme ça, quelque chose viendra de je ne sais pas d'où, on verra bien. Et quand tu fais pareil, quand tu dois raconter une histoire, moi je commence par la recopier. Et du coup, il y a des choses qui rentrent, qui pénètrent. Je rentre et tout le monde ne parlait que d'un seul sujet. Stephen Hawking, l'astrophysicien, qui venait de publier une brève histoire du temps. Et je réalise que l'Upanishad que j'avais travaillé parlait d'une certaine façon, mais que je ne saurais pas expliquer, du même sujet.
Parce que dis donc, moi j'ai essayé de lire ce fameux livre, faut quand même s'accrocher.
Ben oui, mais en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, nous parlions de poésie tout à l'heure, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était la dimension poétique.
Chaque patient est comme une nouvelle histoire qu'il faut comprendre et parfois remettre en ordre afin que son fil soit bien solide. Et comme pour l'univers du conte, il y a un temps d'écoute et un temps de parole. Isabelle Sauvage, l'invitée de C'est pas pour dire.
Je viens d'entendre, tu racontais là dans le Festival des Héroïnes, tu racontais un récit dont tu dis qu'il vient de loin.
De très loin. Il vient, d'abord il a été collecté, c'est-à-dire qu'il vient de la nuit des temps, pour commencer. Il a été collecté en Roumanie, mais on le trouve en Hongrie, en Bulgarie, en Moldavie. Et probablement aussi, mais je n'ai pas vu le texte, on me l'a raconté, en Ukraine. Et beaucoup d'histoires viennent de l'Inde, ça c'est vrai, et probablement y a-t-il des racines là-bas aussi, mais en tout cas, c'est toute cette zone géographique. Et c'est une histoire qui m'a été donnée quand j'étais tout enfant, parce que j'étais passionnée des contes et légendes de Fernand Nathan, oui. Et que c'était les contes et légendes de Roumanie qui avaient été collectés. Oui. Elle s'appelait Bella Nortines. C'était une grande amie de ma grand-mère et elle avait collecté en Roumanie. Mais malheureusement, c'était une juive roumaine qui est morte dans les camps de concentration. Donc, on me l'a transmis en me disant, c'est un trésor familial. Tu reçois ce livre, prends-en grand soin. Et en le lisant, je suis tombée amoureuse de cette histoire.
En plus, tu avais quel âge à cette époque-là?
8-9 ans.
Oui, c'est ça, pour une petite fille de 8-9 ans, cette épopée-là, ce récit d'une fille vaillante, dévaillante, c'est quelque chose quand même.
D'ailleurs, je ne sais pas si mon père n'a pas un peu regretté de m'avoir confié ce texte. J'étais l'aînée de la famille et mes frères et sœurs reconnaissent que j'ai ouvert la voie. Parfois, avec un peu d'énergie. Et je pense
avec
que
ton épée,
voilà. Et c'est voilà, j'ai compris pourquoi cette histoire m'avait tellement passionnée, c'est que c'était en fait au départ la relation d'un père et sa fille. On était au printemps. Imaginez la nature. Les fleurs, les arbres couverts de feuilles nouvelles, les bêtes qui s'appelaient les unes les autres d'un taillis à l'autre. Elle était émerveillée de tout ce qu'elle voyait. C'était prodigieux. Et petit à petit, cette nature extraordinaire laissa la place à un paysage désolé. Les prairies étaient desséchées, les arbres étaient calcinés, les chemins n'étaient plus que des fondrières. Les collines étaient râpées du haut jusqu'en bas. Et puis surtout, plus une bête. Personne, aucun animal ne traversait la route devant eux. Et plus un chant d'oiseaux. Il n'y avait plus de bruit. Aucun bruit. Enfin, si. Il y avait ce curieux bruit sourd qu'on entendait depuis quelque temps et qui se précisait. Un bruit qui devenait un fracas. Le fracas des armes. Et le haranement de deux bêtes monstrueuses qui luttaient l'un contre l'autre. Deux dragons. Imaginez deux dragons
qui n'arrêtaient pas de se battre depuis 7 longues années. Mais comme ils étaient de force absolument égale, il n'y avait aucune chance pour que ce combat fratricide s'arrêtât. Fat Frumos, cria l'un des dragons lorsqu'il vit arriver le jeune cavalier. Fat Frumos, si tu viens m'aider, un jour je te le revaudrai. Fat Frumos, cria l'autre. Si tu viens m'aider, je te ferai cadeau d'un cheval sans rate qui se nomme Clair de Soleil. Fat Frumos, c'est le nom que l'on donne dans ces pays là-bas au prince charmant. Chez nous, on dirait prince charmant. Va pour Fat Frumos. Clair de Soleil, il faut que ce combat cesse. Il faut que la nature reprenne ses droits. Il faut arrêter ce massacre. Auquel des deux dragons dois-je prêter mon bras? Si vraiment tu dois te battre, princesse, choisis celui qui t'a promis Clair de Soleil. Et c'est ainsi que la princesse Sabre au Clair courut se battre à côté du dragon qui lui a promis Clair de Soleil. À peine arrivé, le combat changea de face. Et c'est en peu de temps qu'ils réussirent tous les deux à tuer leur adversaire.
C'était un extrait de La Vaillante des Vaillants de Isabelle Sauvage, enregistré lors du festival Héroïne de sept lieux, un grand conte merveilleux, initiatique, qui interroge. Si l'on est né femme, peut-on devenir homme ? Isabelle Sauvage, C'est pas pour dire, au micro de Angèle Goluchot.
C'est mystérieux ce motif-là. On va pas dévoiler l'histoire, il faut venir écouter Isabelle Sauvage. Mais c'est mystérieux ce motif du loup, du lion et de l'hydre que les filles combattent. Et finalement, c'est son père. C'est magnifique.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et j'avoue que je ne suis pas encore arrivée au bout de la réflexion. Je l'ai raconté une première fois il y a 30 ans. Mais très vite, j'ai senti, bien que l'histoire a été bien accueillie, mais moi, je ne me suis pas sentie de la reprendre parce que j'avais le sentiment de n'avoir pas été au bout de la compréhension. Je ne le suis toujours pas, mais il y a quand même quelques éléments là, cette fois-ci.
Là, une petite digression, tu dirais que pour raconter une histoire, il faut la comprendre ?
Il faut avoir compris, encore une fois, je me répète, ce qu'une conteuse peut apporter peut-être de neuf à cette histoire, ce qu'elle peut apporter de décryptage, de mûrissement.
Oui, parce que tu ne nous fais pas une explication de texte.
Ah mais non, c'est une histoire qui se suffit à elle-même.
On ne parle pas forcément de compréhension, disons seulement réflexive ou intellectuelle. Peut-être effectivement il faut la laisser maturer un peu à l'intérieur.
Pourquoi va-t-on utiliser tel mot ou tel autre ? Pourquoi la voix monte-t-elle dans les aigus à tel moment et descend-elle dans les graves ? C'est tout ça, ce sont les éléments qui sont mus par une compréhension profonde. Et sans laquelle l'histoire a moins de saveur et moins d'importance pour ceux qui vont ensuite l'entendre.
Donc tu reçois ce récit vers 8 ans. 30 ans plus tard, tu la racontes pour la première fois une ou deux fois, tu la laisses tomber et puis...
Dans le premier spectacle que j'ai eu l'occasion de donner à Paris, au retour d'une expérience, je n'arrivais pas à avoir le courage de commencer à raconter, je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les mains dans les poches, non, un petit sac sur le dos, pas grand-chose, et surtout pas d'argent, en me disant, je vivrai de mes comptes. Bon, une amie a tenu à m'accompagner, et elle avait une carte bleue. Bon, d'accord, une carte bancaire. Mais il n'en reste pas moins qu'on a dormi pratiquement 9 fois sur 10, on nous a hébergés grâce à mes histoires.
Génial.
C'était quand même ça.
Tu t'es installé sur le chemin de Compostelle,
Oui, je suivais le chemin de Compostelle. En général, je suis partie avec une affiche qui indiquait « Demandez et il vous sera compté ».
Génial.
Personne ne m'a jamais rien demandé.
Ah bon ? Alors comment
Eh bien justement, je ne vivais pas.
C'est ça.
Donc, au bout de 3-4 jours, et puis en plus de ça, on traversait des villages à 18h. Personne n'était susceptible de nous héberger. puisqu'il n'y avait personne dans les rues. Tout le monde devant la télévision. Donc, je me suis arrêtée pendant 48 heures dans un endroit. J'ai décroché mon téléphone. Enfin, le téléphone de la sur la place. Non, sur ah, la... Oui, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. C'était en 93. Pas de téléphone portable. Et donc, j'ai téléphoné à tous les centres de vacances Carmonde, les EHPAD, les Monsieur le Curé, etc., etc., pour savoir si je pourrais raconter. Et si on me disait, oui, on peut vous héberger, mais vous n'avez pas besoin de raconter, je disais, non, moi, c'est un échange. Voilà, c'est un échange. Je n'ai jamais eu autant de trac de ma vie. J'étais malade tous les soirs, c'était une horreur. Oui, et je disais, fait, oh là là, ce sont les prunes qu'on a mangées sur le chemin, qu'on a piquées sur le chemin, là. Elles ne devaient pas être assez mûres. Oui, en fait, j'avais le trac. Oui. Et je racontais régulièrement. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, mais comment trouver la même force, la même nécessité de raconter? Parce que quand tu racontes pour gagner ta croûte tout le long du chemin... Là, il y a une nécessité. Et tu es vraiment au cœur de ton désir de raconter.
Ils galopaient depuis un petit moment déjà, quand tout à coup, ils entendirent « tin, tin ». Un bruit sourd qui ébranlait la terre. C'était la mère du dragon, celui qui avait enlevé Ileana Simtiana, la mère du dragon qui les poursuivait, telle une lionne avec une gueule ouverte, béante de la terre jusqu'au ciel, qui vomissait des torrents de flammes. Clair de soleil courait de toutes ses forces, de tout son souffle, mais il était évident qu'il ne parviendrait pas à lui échapper. Claire de soleil, elle arrive, que faire? Dans mon oreille gauche, la pierre qui s'y trouve, jette-la derrière ton épaule gauche, dit le cheval. Et la cavalière prit dans l'oreille de son cheval une pierre qui s'y trouvait, la jeta derrière son épaule gauche, et instantanément, une montagne s'éleva jusqu'au ciel. Mais la vieille dragonne s'agrippa au rocher, grimpa, crapahuta, monta, se hissa jusqu'au sommet de la montagne et de l'autre côté, elle dévala la pente à toute vitesse. À nouveau, elle était dans la course, à nouveau, il la sentait. Clair de soleil, elle est déjà là. Que faire? Prends dans mon oreille droite la brosse qui s'y trouve. Jette-la derrière toi. Aussitôt, dès que la princesse eut jeté la brosse derrière son épaule droite, une forêt immense s'éleva jusqu'au ciel. Mais la vieille dragonne brûla les taillis, arracha les buissons épineux, grimpa de branche en branche, se hissa jusqu'à la cime des arbres qu'elle ne parvenait pas à déraciner. Et c'est ainsi qu'elle... traversa la forêt et elle reprit sa course comme un tourbillon. Et à nouveau, ils entendirent « tin, 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 tin ». Et à nouveau, ils sentirent son odeur puante. Et à nouveau, le souffle qui commençait à les brûler. « Clair de soleil, sauve-nous !» La belle des belles enlève son anneau de fiançailles qui est à son doigt et... le jette derrière elle. Aussitôt, Ileana Simtiana prit l'anneau de fiançailles que le dragon lui avait donné, la jeta derrière elle, et c'est une muraille de granit qui s'éleva jusqu'au ciel, parfaitement lisse. Là, la dragonne ne pouvait ni grimper, ni même l'entamer. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est... ayant vu le petit trou laissé par l'anneau en haut de la muraille, enfin en haut, à hauteur d'homme, souffler son feu terrible par le petit trou, un feu qui aurait brûlé les fugitifs à 3 kilomètres en avant, si Clair de Soleil n'avait pas eu la présence d'esprit de rester au pied de la muraille, si bien que le feu leur passait au-dessus de la tête. Ils étaient là tous les deux à se moquer de la vieille dragonne, à la faire enrager. Et elle, folle de rage, soufflait tant et plus qu'à la fin, elle se consuma.
Un extrait de La Vaillante des Vaillants de Isabelle Sauvage, enregistré lors du festival Héroïne de sept lieux, un grand conte merveilleux. C'est pas pour dire, au micro, les deux conteuses, Anne-Gaëlle Goluchot et Isabelle Sauvage.
Toi, tu as une formation de médecin, une profession de médecin, et c'est curieux, c'est assez rare quand même de faire ces deux métiers qui sont, qui en tout cas de l'extérieur, paraissent si différents, ou bien,
c'est le
ou
même
bien sont-ils liés?
C'est le même métier.
Oui.
Ce sont des métiers.
En quoi?
Alors, d'abord, il y a la nécessité d'une cohérence très forte entre ce que tu reçois et ce que tu donnes. C'est-à-dire, un médecin, il observe, il interroge, il pose un diagnostic, il formule des hypothèses, il envisage un traitement et il regarde si ça marche ou pas. Un conteur lit des textes, cherche, va chercher des histoires qui conviennent à ce qu'il a réellement envie de dire, propose une première version, examine, offre son texte au public et regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Joli, très bien.
Lorsque tu reçois l'histoire que quelqu'un te transmet de sa propre vie, il y a une cohérence ou il n'y en a pas. Et il y a très souvent, j'ai remarqué chez mes patients, des ruptures dans les vies. Et dans un conte, on ne peut pas avoir de rupture. On est obligé de retrouver cette cohérence sans fil blanc. Et en réalité, les vies, c'est pareil. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a que des passages difficiles, il y a des épreuves, il y a des moments qui vont être plus faciles, d'autres plus difficiles, et il y a des forces qu'on va chercher, etc. Et en réalité, un conte, c'est une histoire de vie qui aura été redécouverte, réaménagée, remettre dans une fluidité aussi bien qu'une rivière dont on aura dégagé le lit.
Mais est-ce que tu dirais que la langue de ton récit est bon, la construction est belle et la langue est belle aussi.
C'est une obligation, je pense, pour ce type-là de récit.
Est-ce que ça veut dire quoi pour des gens qui découvrent un peu en nous écoutant? Ça voudrait dire qu'il y a différents types de contes, différents types de récits.
Il y a en effet beaucoup de types de récits différents et on pourrait même considérer que chaque type a sa langue propre. Mais ils ont tous en commun l'idée que le conteur est responsable de la langue qu'il transmet.
Ça, c'est très important.
C'est une des personnes qui est responsable de la qualité, de la compréhension, de la musicalité d'une langue, de la richesse du vocabulaire. D'abord, il faut qu'on puisse rêver. Or, pour rêver, il faut sortir du vernaculaire, il faut sortir d'un langage. Je me souviens,
c'est intéressant, ça.
J'étais une conteuse très, très débutante et j'entends quelqu'un qui raconte. Et le prince charmant arrive chez la princesse et il garde sa mobilette à côté. Eh bien, c'était foutu. Excuse-moi d'être grossière, mais moi, je suis restée, d'ailleurs, je suis toujours, des années après, je suis toujours dans le caniveau, là, à
oui.
côté de la mobilette.
Oui.
C'est dommage. C'est comme un musicien qui ne ferait pas l'effort de jouer juste. C'est du même
mais
ordre.
C'est intéressant quand tu dis la langue usuelle, disons, se rapporte au quotidien Et là, on se décale un tout petit peu. C'est comme de l'intemporel qui serait donc du coup... qui nous laisse l'espace pour imaginer, et puis en même temps qui est tout à fait présente. Ça nous permet d'être...
Pierre-Jacques Ézélias, breton, avait deux grands-pères, tous deux sabotiers et conteurs. Et il disait, il y avait deux bretons, un breton pour tous les jours et un breton pour raconter. Et donc, les conteurs bretons parlaient une langue différente lorsqu'ils racontaient de leur langue quotidienne. Ça voulait dire qu'il fallait faire l'effort d'apprendre ce breton un peu particulier. Mais ça facilite le passage dans un imaginaire.
Et ça n'empêche pas que tu es tout à fait présente. La conteuse, là, est tout à fait présente à ce qui se passe, à l'autre. Ça marche bien, ça.
Ça nécessite, comment dire, si on veut être présent à sa parole, il faut être présent à son corps. C'est une présence à soi-même, dans son corps, du coup, dans son bassin, dans son rythme. Et la parole, à ce moment-là, est rythmée. Et cette parole rythmée, tu peux ouvrir un éventail très large de possibilités. Mais je pense qu'il y a un plaisir sensuel extrême dans le fait d'utiliser une belle langue. Et d'ailleurs, le rap, le langage de tous ces artistes des quartiers dits populaires, se régalent avec leur langue. Et c'est un bonheur de les entendre. Et ils disent des choses extraordinairement profondes, vraies, sincères, et en même temps, parfois, j'ai envie de dire, saignantes, en utilisant des mots qui vont avoir du sens, de la profondeur, et je pense que c'est peut-être ça la poésie, on en parlait, s'entrechoquent.
C'est alors que la princesse descendit de son arbre. Elle alla vérifier que son cher clair de soleil n'avait pas de blessure, elle enleva toutes les peaux, et puis elle remit la selle, le harnais, et ils s'en allèrent vers le palais de l'empereur. Toutes les juments, les 30 cavales, suivirent le nouvel étalon. Et l'étalon déchu n'avait rien d'autre à faire que de suivre lui aussi. Il s'en alla à l'arrière de la caravane jusqu'au palais de l'empereur. À peine arrivé, Fat Floumos s'en alla prévenir que les cavales étaient là. La belle des belles monta sur le perron et du haut des marches regarda toutes ces juments, les nommant l'une après l'autre par son nom. Et chaque animal répondait au moment où elle la nommait avec un frisson jusqu'à ce qu'elle arrive à l'étalon. Une fois, elle le nomma. Deux fois. C'est seulement la troisième fois qu'il entendit son nom qu'il fut pris d'un tremblement terrible depuis les naseaux jusqu'à la queue et son pelage retrouva son allure, plus aucune blessure. Il était à nouveau le cheval magnifique qu'il était auparavant. Et les juments furent emmenés dans une prairie avec leur étalon qui retrouvait du coup sa place d'étalon parce que Clair de Soleil, lui, n'était pas du tout intéressé par le poste. Il préféra au contraire aller se reposer à l'écurie, tranquille. Il n'avait pas du tout envie de devenir responsable de 30 cavales sauvages. Et on aurait pu penser que l'histoire allait se terminer là parce que la condition que la belle avait mise à son mariage était remplie. Eh bien non, avant mon mariage, je voudrais prendre un bain dans le lait de mes juments. Donc il faut les traire. Ma petite colombe, dit l'empereur, mais peut-être pourrais-tu, si ce n'est t'en occuper toi-même, du moins faire quelque chose, dire à tes juments qu'elles arrêtent de bouger et qu'on puisse les traire. Il n'en est pas question. Et elle retourna à l'intérieur du palais. Fat Floumos, tu vas traire les juments immédiatement. La princesse savait que ça ne servait à rien de protester et elle s'en alla comme d'habitude. Où est-ce qu'elle est partie demander conseil à Clair de Soleil, à l'écurie. Et là, Clair de Soleil lui a dit, je regrette. Les histoires de juments et de traite, ça ne me concerne pas. Moi, je veux bien m'occuper de l'étalon et finalement d'aller chercher le haras de jument, c'était juste une histoire d'étalon. Mais sur cette histoire, cette épreuve-là, il faut que tu t'en occupes toi-même. Elle est allée chercher des seaux et elle est allée chercher ce qu'on appelle par ici un petit bancel. Vous savez ce que c'est qu'un bancel? Ah, on ne sait plus. Hein. Oui, monsieur le sait, là. Hein? Voilà, avec trois pieds, proche du sol, on met le seau devant, on s'assoit sur le bancel et on traite. Sauf que là, elle posait le bancel, le seau s'installait pour traire, la jument faisait trois pas. Bougeait le siège, s'asseyait, mettait le seau pour traire, la jument faisait trois pas, etc. Et elle comprit vite qu'elle n'y arriverait pas. Et là, elle eut un moment de vrai désespoir. Elle avait fait tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait tout réussi. Elle avait fait ce qu'aucun être humain n'avait fait jusqu'avant elle. Et elle allait échouer sur une histoire de traite. On allait lui couper la tête parce qu'elle n'avait pas réussi à traire des juments. Là, c'était vraiment le désespoir. Elle se laissa tomber à genoux dans la prairie, la tête entre les mains, elle pleura longuement. Et à la fin, elle leva les yeux au ciel et les mains aussi dans la prière des désespérés, vous savez, celle que l'on profère quand il n'y a plus rien à faire. Le dernier espoir, et ce n'est même pas un espoir, c'est le cri du cœur.
Encore un extrait du conte La Vaillante des Vaillants, grand conte merveilleux, issu de la plus ancienne tradition indienne, mais c'est aussi une histoire roumaine, ou bien moldave, hongroise, ukrainienne, un conte initiatique pour parler du féminin, du masculin et de comment il danse sans nous. Isabelle Sauvage, c'est pas pour dire.
Cette émission, je pose une question pratiquement toujours aux conteuses et aux conteurs, qui est, à ton avis, dans cette époque de très visuelle et très rapide aussi, d'écran, d'informations, beaucoup d'informations, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie d'écouter ou de raconter des histoires?
Je peux rappeler un souvenir personnel?
Je t'en prie.
C'était en Aubrac, lorsque avait lieu à l'automne, la fin de l'été, une sorte de colloque festival. Et dans cette salle assez ingrate, c'est pas vraiment une scène, il y avait une estrade de professeurs. On m'avait collé là après déjeuner pour dire la jeunesse contemporaine. Et donc, je m'exécute avec le sentiment d'aller au casse-pipe.
T'exécuter, vraiment.
Voilà, exactement. Je m'exécute moi-même. J'ai besoin de personne pour me couper la tête. Or, pour arriver à raconter ce texte dont tu parlais tout à l'heure, le seul moyen, c'est de voir ce que je dis. Si je ne vois pas ce que je dis, je me perds, je ne comprends plus rien, je ne sais plus où je suis. On est dans les galaxies, mais attention, les galaxies, ce n'est pas la même chose que... Enfin, bref, c'est très compliqué. À la fin du spectacle, enfin, ce n'était même pas un spectacle, c'était juste un quart d'heure entre deux, arrive vers moi une toute petite bonne femme, très vieille, qui me serre dans ses bras avec un étau d'une force. Je me suis dit, mais je... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, exactement. Et qui me dit, dans un anglais américain parfait, je suis une chamane cheyenne, je n'ai rien compris parce que je ne parle pas français, mais j'ai tout vu.
Wow.
Et j'ai tout vu et j'ai compris de quoi tu parlais. Et J'ai compris ce jour-là qu'un conteur ou une conteuse, c'est quelqu'un qui voit et qui parle de ce qu'il voit. Et le spectacle est abouti le jour où on ne parle que des images que l'on a vues en préparation. Mais du coup, c'est totalement réel. Ce n'est pas de l'imaginaire au sens de la fantaisie, de n'importe quoi, etc. On ne se barre pas dans le... Non, on a mis en place des images, on les voit et on raconte ce qu'on voit. Moi, je vois mes images quand je raconte, mais l'auditeur, il fabrique ses propres images. Il y a un exercice qu'on fait chez les conteurs, dans les ateliers contes pour débutants ou pour amateurs qui veulent juste se familiariser à l'art du conte. On raconte une histoire qui se passe dans une forêt. On demande aux gens s'ils ont vu la forêt. Si le conteur était bon, ils ont vu une forêt. Et maintenant, racontez-moi votre forêt. Et on se retrouve avec une forêt de sapins, une forêt de cèdres, une forêt de chênes, une hêtraie, une garrigue provençale, la taïga, la toundra. On se retrouve avec toutes les forêts possibles et imaginables. Et aucune d'entre elles ne sont la forêt qu'avait imaginée le conteur. Mais chacun a vu sa propre forêt. Or, le cinéma ne va pas donner cette possibilité-là. Finalement, les films qui vont bien fonctionner sont ceux qui laissent une part d'imaginaire. Le conte est une expérience de liberté aussi.
Ah, tu dis ça? Pour, oui. Pour le conteur et pour l'auditeur?
Pour le conteur comme pour l'éditeur. Après, la liberté a beaucoup d'exigences. Ça n'est pas facile, la liberté. La liberté ne peut fonctionner que s'il y a un énorme travail derrière et accepter le risque.
Là, on était depuis 10 jours dans un festival qui s'appelle Héroïne de 7 lieues. On a entendu des récits d'héroïnes et tout ça. Mais il y a cette question à l'arrière-plan que posent souvent les gens qui disent, bon, mais en fait, un conte, est-ce que... Il y avait une dame qui disait ça d'ailleurs en se rendant sur le lieu dans la balade là tout à l'heure, qui disait, mais est-ce qu'on peut encore raconter des contes à des enfants? Est-ce que c'est pas des pièces de musée? Est-ce que ce n'est pas des choses normatives, sexistes? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
Je dirais qu'un conte est forcément contemporain du moment où il est raconté. Donc, par conséquent, si je raconte une histoire, elle est contemporaine du 9 juillet 2023. Après, quand un musicien joue une ballade médiévale, c'est forcément de la musique ancienne. Mais on s'aperçoit que cette même ballade médiévale peut être transformée par un jazzman, peut être transformée par Jethro Tull, tu te souviens, d'une façon absolument extraordinaire. Ce sont toujours... Il faut bien comprendre que ceux qui prétendent inventer des histoires ou des contes, c'est complètement faux. On ne peut pas les inventer. Tout a été dit, posé. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait après.
Oui, puis il y a l'aspect, évidemment, symbolique. C'est-à-dire, est-ce que un roi, c'est un roi, dans le sens prosaïque du terme, ou est-ce que tu termines quand même ton récit tout à l'heure en disant, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais c'était très joli, je vous souhaite...
Ah mais pour moi, c'était rassembler le masculin et le féminin en voilà. Soi. Mais tu sais, il y a des textes qui ont été collectés, et donc a priori, ils ont été racontés comme ça. Je me souviens de ce début de conte. Le roi venait juste de ramener ses vaches à l'étable.
Non.
Mais oui, mais parce que chacun est roi de chez lui, quoi. J'ai passé 10 ans en Haute-Provence, dans un village où il y avait un roi. Et il y en avait un autre à 3 km.
Et aussi cette idée que le féminin et les filles et les femmes dans les contes ne sont pas des personnages, sont relégués, disons, à un rôle super passif.
Alors, là, il y a quand même un point qui est très important à considérer. Oui. Nous parlions tout à l'heure d'une conteuse que nous connaissons toutes les deux, Nora Asseval.
Une conteuse algérienne, kabyle.
Qui est née dans un campement nomade et qui, ayant fait des études, même un doctorat de littérature, est retourné dans son campement pour collecter les récits des femmes. Mais ces récits-là, qui les a collectés? Qui les a entendus? Ceux qui sont venus collecter, ce sont des hommes. Ils ont récupéré les récits que racontaient les hommes, ou même que racontaient des femmes qui avaient été formées par des hommes. Donc, par conséquent, ce sont les récits d'hommes qu'on raconte, ce ne sont pas les récits des femmes. Et les histoires de Nora Aswal, il y en a certaines, je ne les raconterai pas sur cette antenne. Parce que, eh bien voilà.
Oui, et puis il y a aussi qu'on a, intégré d'une certaine manière le fait que, par exemple, la confiance, la patience qu'on attribue, disons, généralement au côté féminin, serait moins... Il faut un sacré courage pour attendre que ça se passe. Tu plantes une graine et tu attends. Il faut une dose de... Enfin, moi, en tout cas, dans une situation de danger, j'ai plutôt tendance à sortir le cheval et l'épée, mais... J'ai pu vérifier avec l'expérience et avec le temps que d'apprendre à m'asseoir, attendre, c'est pas rien. C'est un sacré.
C'est des sacrées qualités.
Ce sont des qualités dont on va parler, par exemple, dans les contes africains, les contes initiatiques, les grands contes initiatiques qui sont racontés justement au moment des initiations. Chez les garçons comme chez les filles. Parce que ce sont des peuples qui ont encore accepté qu'il y ait du féminin. Et les griottes, en Afrique de l'Ouest, comme les griots, racontent elles-mêmes aussi des histoires très fortes. Et tu te souviens certainement de cette histoire que je ne raconterai pas, mais simplement ce motif. Celui qui a acheté trois conseils. Un des trois conseils, c'est « attends, prends patience ». Si bien que lorsqu'il est revenu après une longue absence et qu'il a vu un homme couché en travers de la porte de la chambre de sa femme,
plutôt que de le tuer tout de suite,
il attend. Et le lendemain matin, il rencontre son fils qui a grandi. 10 ans d'absence. Voilà. Et donc, je pense profondément que certaines histoires n'ont pas été collectées comme elles auraient dû l'être. La plupart des collecteurs du XIXe siècle qui ont collecté les contes d'Europe, ce sont des hommes. Maintenant, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les femmes étaient considérées comme majeures, plus jeunes que les garçons. À l'âge de 12 ans, elles avaient le droit de gérer leurs biens et de faire des testaments. Alors que les garçons, c'était, si mes souvenirs sont bons, je sais que c'était plus tard, mais je crois que c'était 15 ans ou 17 ans.
Thank you.
C'est pas pour dire, Isabelle Sauvage, en compagnie de Angèle Goduchot.
Dans ton récit tout à l'heure, il y a tout un tas d'exploits guerriers, disons, qui seraient dans d'autres récits attribués à des héros, à des hommes. Et puis, il y a un moment où il est nécessaire de traire les juments. Et là, le cheval dit, écoute, il va falloir que tu t'en occupes. Parce qu'il va falloir retrouver quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu.
Ouais, c'est
il va
ça,
falloir
tout à fait ça.
Retrouver. D'accord, maintenant lâche ton épée et investis
le
féminin en toi. Sans quoi? Et c'est très joli, cette héroïne qui dit « Mais j'ai combattu, j'ai tué un dragon et tout ça, et je serai arrêtée par une histoire de pie, de lait et de jument. Comment est-ce possible ?» Et en effet...
Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup touchée et interrogée, c'est cette adresse au ciel. C'est quoi? C'est une prière? C'est quoi? Ou c'est le moment en soi-même où on touche le fond du désespoir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien, et il va falloir s'en remettre à
Vassilissa, en face de Baba Yaga, qui dit « je sais balayer, je sais donner à manger, je sais laver, ranger, tout ça, mais... trier cette montagne de grains de blé d'ici demain matin, c'est impossible. » Et alors à ce moment-là, le mystère opère.
Et c'est un message extrêmement important. Parce que transmettre ce message-là aux enfants, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais au jeune garçon de 10 ans qui avait, semble-t-il, beaucoup apprécié l'histoire, je lui disais, mais tu sais, des dragons, il y en a encore beaucoup à notre époque. Ne crois pas qu'ils aient disparu. Non, ils n'ont pas d'écailles. Ils n'ont plus d'écailles. Mais ils ont toujours des langues venimeuses, ils ont toujours des comportements agressifs. Simplement, il faut trouver d'autres moyens de les combattre. Et pour commencer, il faut les reconnaître.
Et puis quand même, accepter de rentrer chez eux. Isabelle, merci de ce moment, c'est précieux.
Eh bien écoute, ravie d'avoir eu l'occasion de raconter pour vous tous.
Ouais.
Et maintenant de dire un peu quelques paroles sur cet art que nous J'avais failli dire que nous vénérons, non.
Merci.
Et c'est comme cela que se termine cette heure passée en compagnie de Isabelle Sauvage pendant le festival Héroïne de 7 lieux. Alors pour celles et ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, ce festival fait se croiser des récits du monde entier. Certains sont millénaires, d'autres contemporains. Récits dans lesquels les femmes ou le féminin en chacun de nous jouent le rôle principal. Merci donc à Isabelle Sauvage et à Angèle Goduchot, directrice artistique du festival Héroïne de 7 lieux. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site www.c'estpaspourdire.fr, nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook. Bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres. Ciao!
A dream.